c'est cette fois-là, la quatrième, il nous reste encore une séance la semaine prochaine. Nous nous sommes interrogés sur le portrait et sur d'abord ce qu'est un portrait. Vous vous rappelez que c'était l'objet de la première séance. On a vu ensuite dans une deuxième séance à quoi servait un portrait, quelle est la fonction d'un portrait. Et la fois dernière, on s'était intéressé à la question de l'autoportrait, c'est-à-dire des portraits faits par les peintres eux-mêmes, par les artistes eux-mêmes. Hein. Nous n'avions d'ailleurs pas fini nos devoirs, je vous le rappelle. Hein. C'est d'ailleurs un peu de ma faute, parce que je ne veux pas croire que c'est vous qui êtes un peu lent, c'est moi qui ai mis beaucoup trop de choses. Vous êtes bien d'accord, hein, voilà, hein. J'ai mis beaucoup, beaucoup trop de choses. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous terminions notre devoir de la semaine dernière, après quoi nous aborderons, dans l'heure qui restera, un autre sujet tout à fait fondamental. Je passe très vite sur nos petites règles et je renoue avec le diaporama de la fois dernière. Nous étions restés à la fin des autoportraits des 17 et 18e siècles. Vous vous rappelez qu'on avait terminé la séance par cet autoportrait-là, où le peintre William Hogarth fait son portrait dans la peinture, en quelque sorte. Hein. C'est le tableau dans le tableau. Et vous remarquez en plus qu'il propose un parallèle entre son chien, un peu bougon, n'est-ce pas, et sa propre tête. Hein. Vous vous rappelez de cette idée-là. Alors, terminons en regardant encore quelques autoportraits des 17 et 18e et la manière dont les artistes se représentent dans ceci. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer là, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est aussi un autoportrait d'un artiste des 17 et 18e siècle. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a quelqu'un qui
fait
l'ombre avec la main.
Oui.
Il regarde
Voilà. Il regarde l'avenir.
Voilà. Alors, quelque part, effectivement, dans cet autoportrait, le peintre, en faisant de sa main une sorte de visière, hein, il regarde, entre guillemets, le lointain, l'avenir. Il regarde quoi ou qui aussi?
Nous.
Eh bien, vous.
L'horizon de Jean-Louis.
L'idée aussi dans ce portrait, dans cet autoportrait, c'est de montrer le peintre qui, quelque part, vous questionne, vous. À travers les siècles, c'est vous qui le regarde. Hein. Une idée peut-être de l'auteur, ou du moins, si vous n'avez pas d'idée de l'auteur, du lieu où ce portrait peut être réalisé, du pays, du moins. Vous avez une idée?
C'est en Angleterre, non?
C'est anglais, effectivement. C'est une œuvre de Sir Joshua Reynolds. Hein. C'est donc un autoportrait de Reynolds, jeune, et donc un portrait qui, effectivement, montre une sorte de questionnement de son auteur vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, c'est une mise en scène, d'une certaine manière, oui, mais c'est un autoportrait. Alors là, qu'est-ce que représente, finalement, cette scène-là? D'abord, le peintre, il est où, là-dedans? Parce qu'il y a quand même deux figures, on est bien d'accord, hein? Une en haut, une en bas. Le peintre, il est où?
En bas.
En deux endroits, en bas. Alors, effectivement, vous vous rappelez que la fois dernière, on a vu plein d'œuvres comme ça. Hein. Vous vous rappelez de Michel-Ange, vous vous rappelez également de Caravage. Hein. Alors là, évidemment, le peintre, il peut être là.
Hein. C'est bien victime.
Ben, il n'est pas là, il est là, le peintre. Hein. Eh oui, les artistes, qu'est-ce que vous voulez? Ils changent. Ah, je vais peut-être amener une chaise pour madame. Je vous amène une chaise.
Merci, merci.
Signez, et je vous mets une chaise juste là.
Merci, c'est gentil. Non, j'ai marqué deux fois.
Oui, donc, le peintre ici, il est là. Hein, là. Mais quel rôle joue-t-il? La scène qui a présenté, c'est quoi? C'est un autoportrait, encore une fois. Mais vous avez dit d'emblée que c'était une mise en scène. Quelle mise en scène? Qu'est-ce qui est finalement évoqué, représenté là? David et Goliath. Hein, vous avez effectivement David, et vous avez la tête de Goliath. Et vous voyez même que David, qu'est-ce qu'il tient? Voilà, il tient un caillou. Pourquoi?
Parce qu'il a lancé avec la lance.
Voilà.
Avec une fronde.
Voilà, hein, vous savez que David a tué Goliath en envoyant avec sa fronde un caillou dans la tempe de Goliath. D'où le fait qu'il tient, qu'il arbore, en quelque sorte, une sorte de caillou. Ou alors, vous pouvez peut-être vous mettre là, si vous voulez. Voilà. Oui, dans ces cas-là, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Je vais prendre votre chaise. Allez-y, on va se mettre juste devant ici. Voilà, comme ça, tout va bien. Voilà. Alors, le peintre qui est représenté là, qui s'est représenté, s'appelle Giovanni. Hein. C'est un artiste originaire d'Allemagne, hein, mais qui a beaucoup travaillé à Londres. Et là, effectivement, il se représente en David, accoudé nonchalamment sur la tête de Goliath. Alors là, autoportrait toujours. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cet autoportrait-là ? Est-ce que c'est pareil que le précédent ?
Non.
Là, qu'est-ce qui caractérise cet autoportrait ? Oui, réalisme, si on veut. Et réalisme qui est marqué par quoi ?
Il n'a même pas sa perruque.
Oui, il n'a pas de perruque, effectivement. Sourire. Hein. Sourire, pas de perruque, ça veut dire quoi, ça ?
Décontracté.
Voilà, c'est ça. C'est décontracté, on entre dans l'intimité du peintre. Hein. Le peintre vous reçoit dans une sorte de déshabillé, il est chez lui, quelque part. Hein. Il vous reçoit de manière très décontractée. Une idée du peintre ?
Quentin Latour.
Hein. C'est effectivement Maurice Quentin Latour. On l'a déjà évoqué ici à plusieurs reprises. C'est une œuvre de Maurice Quentin Latour, un autoportrait très, très privé.
Chardin.
Très, très célèbre autoportrait de Chardin, vous le connaissez. Cet autoportrait, là aussi, vous le classeriez dans quel type de représentation ? Dans quel type d'autoportrait ?
Réaliste,
oui. Intimiste, oui. Hein ? Ben, disons qu'il se représente tel qu'il est. Il est dans son atelier. C'est quoi l'espèce de chapeau qu'il a sur la tête, là ?
Non, c'est deux parties.
Ah, voilà. Il a une visière. Vous vous rappelez de Reynolds tout à l'heure ? Reynolds, qui n'avait pas de chapeau à visière, donc il faisait la visière. Hein. C'est utile, la visière, pour un peintre. Hein. Ça permet de ne pas être gêné par les lumières semi-tales, si j'ose dire. Donc, on peut en avoir besoin. Là, ben, il en a une dans son atelier, mais il se représente avec. C'est peut-être pas très formidable, si j'ose dire, esthétiquement parlant, mais là, il se représente tel quel. Il vous fait rentrer dans son atelier. Hein. Donc, c'est effectivement l'autoportrait de Chardin. Par parenthèse, ce qui montre le côté très intime de cet autoportrait, c'est que Chardin l'avait fait en pendant de ce portrait-là, qui est le portrait de son épouse. Hein. Donc, les deux portraits vont ensemble. Mais vous ne découvrez pas que souvent, les portraits vont par deux. Hein. Ça, on en a déjà parlé. Rappelez de ce qu'on a dit sur la fonction. Hein. Voilà. Donc là, vous avez monsieur, madame, Chardin et son épouse. On entre dans l'intimité du pain. D'accord ?
C'est vraiment
de paille. Et là, anglais, effectivement, on est à nouveau dans une œuvre anglaise. Qu'est-ce que vous auriez à dire de cet autoportrait-là ? Encore une fois, quel hautain, content de lui. Qu'est-ce qui montre ce côté content de lui, hautain ? Pardon ? Ah, la pourpre, oui, digne des empereurs antiques, n'est-ce pas ?
Hein ?
Le regard, oui. Oui, l'attitude. À la fois désinvolte, mais enfin un petit peu de haut. Hein. On sent qu'il y a, j'allais dire, une aisance, mais une aisance un peu supérieure hein, dans cette affaire.
Hein.
Il est au-dessus de tout le monde, et de nous en particulier, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore qui vient comme ça souligner la hauteur du personnage ? Oui, il a effectivement un parchemin, on sent qu'on est là devant un lettré. Hein. Là, la statue, c'est quoi d'ailleurs comme type de statue ? C'est un buste, oui. Vous reconnaissez qui c'est, peut-être ?
Un philosophe ?
Alors, c'est vrai que ça fait penser à un philosophe grec. Hein. On a là, effectivement, l'impression d'un philosophe, hein, quelqu'un qui vraiment souligne l'importance du personnage. À vrai dire, ça ressemble à un philosophe grec, tout à fait, et je pense que l'artiste n'est pas dupe de cela, mais c'est pas tout à fait un philosophe grec. C'est ni un philosophe, ni un grec, d'ailleurs. Mais c'est oui, ah oui, oui, ah ben, il y a d'autres gens qui sont philosophes grecs qui ont des barbiches, hein. J'en vois même dans cette salle, hein. Mais qui sont sûrement philosophes. Hein. Voilà, mais oui, effectivement, il y a là quelque chose qui cultive une sorte d'ambiguïté. On a l'impression qu'il s'agit là d'un buste de quelque philosophe grec. Hein. Quand on regarde un peu plus près, on voit que c'est une référence un peu plus précise encore, et qui n'est ni grecque ni philosophique. Un personnage dont on a déjà parlé ici, en parlant du portrait et de l'autoportrait. C'est Michel-Ange. Ce que vous voyez là, c'est un buste de Michel-Ange. Alors, de manière un peu large, si vous voulez, il s'agit encore une fois d'évoquer la référence. Le buste barbu renvoie effectivement au sage grec, mais plus précisément, c'est un buste de Michel-Ange. Alors, encore Reynolds, c'est le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, vous l'avez vu jeune, en train de vous regarder. Là, vous l'avez plus âgé. Depuis, il a franchi les étapes de la notoriété. Il est reçu à l'Académie londonienne, n'est-ce pas, et royale. C'est donc un personnage. Eh bien, c'est lui qui vous contemple. Et ça, c'est quoi ça? Il se moque. Il se moque de nous. Ce personnage est en train de se ficher de vous, si vous permettez l'expression. Et c'est bien volontaire. Et comment ça... Comment est-ce qu'il propose cette attitude-là? Comment vous décririez ça?
Il pointe le doigt.
Voilà, il pointe le doigt vers vous. En se marrant, un sourire comment? Oui, un peu sarcastique, effectivement. Une idée du lieu et peut-être du nom du lieu où ça a été fait, du personnage et du peintre. Anglais encore? Ah, c'est anglais. Ils sont quand même... Donc un anglais de la fin du XVIIIe siècle qui, sarcastiquement parlant, est en train de se ficher des bons français que nous sommes. Et ben voilà, c'est un français du 18e. C'est une œuvre française du 18e, Ducreux. Je vous ai déjà montré d'ailleurs une œuvre de Ducreux, vous en rappelez? Je vous ai montré un autoportrait de Ducreux où il se présentait en bâillant. Vous vous rappelez pas de ça? On le voit d'ailleurs la main levée en train de bâiller aux corneilles, vraiment. Vous vous rappelez de ce tableau qu'on a vu dans la première ou deuxième séance? Et ben c'est le même. En fait, Ducreux est quelqu'un qui aime beaucoup comme ça se mettre en scène, quitte à intégrer les autres. C'est un peu comme Reynolds tout à l'heure. Reynolds, il vous regardait. Ducreux, il se fiche de vous, mais de lui-même aussi, par la même occasion. Vous voyez qu'il y a comme ça une volonté des peintres de faire participer, bien au-delà de leur époque, le spectateur à la peinture. Parce que vous n'êtes pas indemne dans cette affaire-là. Et deux siècles après, même trois, vous êtes dedans. Alors, maintenant, pour terminer avec ce petit regard sur les autoportraits, regardons toute une série d'autoportraits du 19e siècle. En commençant par ça. Alors, ça, c'est qui? Peut-être que vous avez une idée.
Non, mais c'est noté.
C'est Ingres, effectivement.
Mais c'est écrit.
Oui, c'est là. Trop facile. C'est Ingres. Mais cet autoportrait de Ingres... Qu'est-ce qu'il charrie là aussi comme idée? À quoi se réfère-t-il? Peut-être penser à d'autres autoportraits que nous avons vus la dernière fois. Vraiment, c'est intéressant de faire des séances sur deux coups, parce que ça me montrera si vous avez révisé. Et je vais regarder ça avec assiduité. Ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. Cet autoportrait, vous le qualifieriez comment? Qu'est-ce que vous diriez de lui? Pardon? Mélancolie, désabusé, interrogateur.
Il a un tableau devant lui. Il est en train de travailler.
Alors, il est effectivement en train de travailler. Vous avez donc Ingres qui est jeune, qui est dans son atelier en train de travailler. Très bien, parfait.
Il se retourne vers nous, puis alors pourquoi il a l'autre main sur le cœur?
Ouais, il a effectivement une main sur la poitrine, ça vous rappelle rien, ça? On a vu la fois dernière un autoportrait de qui ressemblait un peu à ça? Pardon? De Raphaël. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous ai montré un autoportrait de Raphaël. En fait, Ingres était un très grand admirateur de Raphaël. Donc le portrait que vous avez là est une sorte de référence d'Ingres à son maître, si vous voulez. En fait, là-dedans, il se représente, mais il cite son maître. Il cite Raphaël. D'ailleurs, la manière de peindre cette espèce de caractère à la fois délicat, précieux, etc., est très raphaélesque. Hein. Décidément, Raphaël, c'est le modèle d'Ingres. Donc, Ingres, dans son portrait très jeune, 24 ans quand il fait ça, hein, est quelqu'un qui cite Raphaël, qui se réfère à lui.
Celui-là, c'est un
caricature. C'est un petit rigolo, celui-là. Hein.
C'est celui qui fait les caricatures.
Alors, c'est vrai que ça fait penser à Daumier, mais ça n'est pas Daumier. C'est d'un autre peintre dont, si je ne m'abuse, nous avons déjà parlé et dont je vous ai déjà montré les œuvres. Oui, je suis même sûr. Pardon ?
La mono ?
Pardon ? Non. Non, il n'y a pas de monocle, il fait le pitre. Hein. Il fait le pitre. Quelle est l'idée là-dedans ? Quelle est l'idée de ce peintre qui fait un autoportrait de lui comme ça ?
La dérision.
Pardon ?
La dérision.
Oui, c'est ça, une sorte de dérision. Mais de dérision dans quel sens ?
Sympathique.
Oui, mais une dérision, parce que il y a dérision, tout à l'heure, il y a du creux qui vous portait en dérision, là. Hein.
Oui, mais il se tourne, lui.
Voilà, là, c'est plutôt une auto-dérision. Hein. C'est, il se porte, lui, en dérision.
Oui, mais hein. C'est en même temps un exercice difficile.
Alors, en plus. Hein. Pas d'idée du peintre ? Nous avons vu.
Du creux, peut-être.
Vous voyez, vous rappelez celui dont on a vu, je crois que c'était à la première ou la deuxième séance, qui réalisait beaucoup de petits portraits, tous de la même taille, avec des personnages tous pareils. On pourrait croire que c'est un peintre comme ça, un peu systématique, vous voyez, ce qu'il est, bel et bien. En même temps, c'est un peintre qui adore la dérision, qui fait des tas de caricatures. Hein. Moi, c'est un artiste qui me fait beaucoup rire. Quand je vois ces tableaux, je ris toujours. Voilà, et voilà une œuvre de lui.
Là, c'est plus sérieux.
Là, c'est plus sérieux.
C'est sévère, oui.
Vous qualifieriez là aussi, hein, parce que le but c'est de voir quelles sont les métamorphoses de l'autoportrait, par quelle couleur, entre guillemets, hein, les peintres peuvent faire passer leur image. Là, l'idée c'est quoi ?
Ça fait un peu antique.
Oui, c'est vrai, il y a un côté antique. Hein, là aussi, la barbe, le vieux sage, on a l'impression d'avoir quelques philosophes. Hein. Alors, on est au 19e siècle en même temps, mais effectivement, il y a la référence à l'Antiquité, vous le disiez. Et ce portrait, il appartient vraiment à quelle phase artistique ?
Au romantisme.
Au romantisme. Hein. On est vraiment... Qu'est-ce qui fait qu'on est là ? On est vraiment super romantique, quoi.
Sombre.
Voilà, c'est sombre, oui. Et puis, qu'est-ce qui sourdit encore dans une œuvre comme ça ? Le romantisme, c'est quoi ? C'est l'inverse de notre époque, à mon avis.
Il a l'air torturé.
C'est de la passion
visible. Oui, ça, alors là, c'est quand même notre époque, oui. Le romantisme, c'est la passion. Hein. Tout ce que notre époque n'est pas. Une époque plan-plan, un peu... le romantisme, c'est la passion, n'est-ce pas, hein, on est vraiment en plein... Les romantiques sont des gens qui, dans le bonheur comme dans le malheur, sont passionnés, n'est-ce pas, hein, voilà. Là, vous avez vraiment un personnage passionné. Vous sentez que ça bouillonne là-dedans. Hein. Il y a vraiment tous les affects qui sont prêts à exploser. Vous avez une idée du peintre qui a fait ça ? Une idée peut-être du pays d'où vient ce peintre ?
Allemagne.
Allemagne, absolument. C'est une œuvre allemande. Vous avez l'idée d'un très grand artiste allemand du 19e, dont j'ai parlé, mais là-bas en face, pardon. Friedrich. C'est une œuvre de Caspar David Friedrich. Alors, vous connaissez Friedrich, hein, avec ses paysages extraordinaires, où il y a toujours des nuages, quelques sapins, une ruine gothique, etc. Hein. Cette espèce d'onérisme friedrichien. Friedrich, c'est la passion allemande, c'est une sorte de Wagner du pinceau, si j'ose dire. Hein. Eh bien, c'est un autoportrait de Caspar David Friedrich.
Clair-obscur.
Hein ? Pardon ?
Narcissique.
Oui. Ben, les autoportraits sont tous plus ou moins, vous avez raison. Hein. Après tout, alors, il y a des super narcissiques, hein, genre Courbet-Rembrandt, peut-être, hein, voilà, qui aiment bien se regarder, mais qui aiment bien aussi parce que, en faisant des portraits, des autoportraits, et encore des autoportraits, c'est une manière de varier sur un même genre, hein, toujours sur le même thème. Hein. Donc, c'est vraiment une attitude plastique. Donc, un autoportrait est toujours plus ou moins un peu narcissique, ça, c'est sûr. Hein. Mais dans ce portrait, là aussi, ce portrait, il appartient à quel courant artistique ?
romantisme encore, hein. On est vraiment dans le clair-obscur romantique, hein. Le portrait sort du noir, l'artiste sort du tombeau, n'est-ce pas, hein. C'est ça l'idée, hein. Quel artiste d'ailleurs ? Super célèbre, hein. Vous connaissez tous, par cœur. Un artiste ultra connu. On ne peut pas ne pas le connaître. On y a cité des dizaines d'œuvres de lui. Hyper connu.
Delacroix, mais...
Ecco. Eugène Delacroix. C'est pas le portrait le plus connu de Delacroix.
Non.
Mais c'est un autoportrait de Delacroix. Et ça... Rigolo.
Non, pas du tout.
C'est un verre d'eau.
Je me fais répéter ce que dit la salle. Alors, il y a un malade. Qu'est-ce qui se passe dans ce portrait, dans ce tableau, dans ce portrait, dans cet autoportrait ?
C'est le nari où
il y a un médecin ?
Oui.
Il est où le médecin ? Oui. Oui. Donc, le médecin, il est là, celui qui tient le verre. Hein. Le peintre, il est où dans l'histoire ? C'est lui là. Hop, je vous dis ça parce qu'il y a encore du monde derrière. Hein. Alors moi, je pose la question. Hein. Il est où le peintre ?
Derrière
là. Donc le peintre s'est représenté dans une scène où un médecin soigne un malade. Non. C'est lui le malade. Le peintre, c'est lui le malade. Ah, avant que le peintre soit le médecin. Un médecin peintre. Hein.
Non. Oh, c'est peut-être pas sûr que c'est un médecin, c'est peut-être quelqu'un qui est là. Qui
alors, un médecin peintre ou un peintre qui se fait soigner ou un peintre qui assiste à une scène de soins. Bon, il y a les trois possibilités. On va voir laquelle est la bonne. Et vous avez une idée du peintre qui a fait ça ? Il y a du texte.
Oui.
On peut pas lire.
Oui, mais...
On peut pas un texte lire. Italien, anglais,
en anglais. Non, pas sûr. Parce que
pas d'idée, pas d'idée d'un artiste. Là aussi, hyper célèbre. Vous connaissez tous. Là aussi, dès que je vais vous dire le nom, vous allez dire oh, bah, bien sûr. Et vous pourrez me citer dans la foulée 10 heures au moins de lui en 30 secondes. Goya. Un autoportrait de Goya. Vous voyez que les autoportraits, hein, ça va dans tous les sens. Hein, hein. Voilà un thème qui paraît anodin, quoi de plus simple que de se représenter soi-même. Vous voyez que c'est un thème singulièrement riche. Hein. En fait, Goya a été très malade. Il a donc demandé à un médecin qui s'appelle le docteur Arrieta de le soigner, ce qu'il est en train de faire. Goya s'en est trouvé beaucoup mieux. Et pour remercier son médecin d'avoir soigné, il lui a offert ce tableau avec en dessous tout un texte qui raconte l'histoire. Hein. Ça vous rappelle rien d'ailleurs ce genre de tableau où il y a tout un texte qui raconte une histoire de guérison qu'il y a au-dessus ? Voilà, exactement. Hein. Il y a une tradition dans la peinture qui est celle des ex-voto. Vous savez, autrefois et encore récemment, hein, quand on avait un accident, un problème, etc., et qu'on allait dans les églises, qu'on mettait des cierges et que tout allait mieux, on offrait à l'église un ex-voto. Alors on montrait par exemple, je ne sais pas, si c'était un accident, quelqu'un qui était passé sous une carriole et qui s'était cassé la jambe. Bon. Alors on montrait une scène représentant l'accident, hein. Et puis en dessous, il y avait un texte disant le 3 janvier 1803, un tel s'est fait casser la jambe. Heureusement, la Vierge est intervenue et maintenant tout va bien. Bon, donc on écrivait ça en dessous. Finalement, Goya la reprend le type de l'ex-voto pour ce tableau, qui est finalement une sorte d'ex-voto, sauf que c'est un cadeau à son guérisseur. Et là, par rapport au portrait d'avant, vous diriez quoi ? Pardon ? Oui, c'est plus léger. Hein. Là, on n'est vraiment pas dans le pathos goyesque. On n'est pas dans le romantisme frédéricien ou delacroixesque. Hein. On est dans autre chose. Hein. On est dans quoi ?
Et c'est pas un peintre qui est en
pardon ?
Il est en
train de peindre. Voilà, il est en train de peindre. Hein. Très naturel. Hein. Très naturel. Là, j'utiliserais bien le terme de réaliste que vous disiez tout à l'heure. Hein. D'autant que ce tableau, il est de qui ?
Corot.
Corot, absolument. C'est l'autoportrait de Corot. J'allais presque dire le fondateur de l'école de Barbizon.
Alors, ben, il peint les paysages comme il se peint lui-même et l'inverse. Ouais. Hein, voilà. En fait, c'est un paysage qu'il peint, mais qui est lui-même.
Donc on est là dans un portrait qui n'a pas du tout le caractère habité, n'est-ce pas, des portraits romantiques qu'on a vus. Il se peint lui-même comme il peint un paysage. Il n'y a pas des ponts, trois arbres, une rivière, mais il y a un nez, deux yeux, une bouche. Voilà. Et là, ça vous inspire quoi? Là aussi, on est au 19e, dans quel... dans quel sentiment, dans quelle direction, j'allais dire, et pas un portrait comme celui-là. Pardon ? Ben voilà, on est à nouveau dans le romantisme. Hein. Mais je vous rappelle que le 19e, c'est d'abord le romantisme, et puis il y a le réalisme, et voilà. Donc on est dans une espèce de permanence, d'aller et venir. Hein. Voilà, donc c'est un autoportrait d'un artiste russe. On ne parle jamais de la peinture russe. Hein. Ben parlons-en un peu. Voilà une œuvre de Brioulov, qui est un des grands peintres russes romantiques, hein, et qui vous montre un artiste, enfin l'autoportrait de l'artiste, effectivement affaissé dans son fauteuil, terrassé, n'est-ce pas? On a l'impression d'une sorte de Faust. En plus, il est livide, hein, on sent vraiment que rien ne va. Hein. Donc, il est absolument romantique, n'est-ce pas? Tout est détraqué, rien ne va, il déprime complètement. C'est un artiste romantique, tout va bien, il fait son autoportrait. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Un atelier, hein? Effectivement, un atelier. Hein? Il est où le peintre? Tout au fond là-bas?
Oui. Ah non, la chemise blanche là-haut.
Ah là, en train de ranger son placard.
Ah. Celui-là.
Il y a autant d'avis qu'il y a de monde ici. Bon, il y en a sûrement qui ont raison parmi vous, mais hein, en fait, il est là.
C'est le seul qui n'a pas de veste.
Voilà. Hein. Il est dans son atelier, à l'aise. Hein. Ça vous rappelle d'ailleurs peut-être quelque chose qu'on a vu déjà?
L'atelier de Corot.
Oui, alors de Corot?
Non, de Courbet.
Alors, ça rappelle un peu l'atelier de Courbet, oui, mais ça rappelle peut-être surtout un autre tableau, dans lequel il y avait un autoportrait. Pardon? Oui, quelque part. Oui, c'est vrai que les Ménines, avec ses plans différents, la porte ouverte, quelque part, on pourrait... Alors, les Ménines a peut-être une ampleur encore plus forte. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'on a vu également un tableau avec un collectionneur, avec plein de tableaux, mais c'est un autre tableau que je crois que je vous ai passé dans la deuxième séance, quand on a vu les fonctions du portrait. Pardon ? C'était pas Basile, non. Alors il n'est pas là, Basile, Frédéric Basile. Non, c'était l'hommage à Delacroix de Fontaine-Latour. Vous vous rappelez pas de ce tableau ? Non ? Un tableau où il y avait au centre l'autoportrait de Delacroix et autour plein de monde, dont Fontaine-Latour. Il y avait même Baudelaire, il y avait même... Vous vous rappelez de ça, hein? Ah, vous voyez, hein? Ah, on est un peu dans la même chose. Alors, là, il n'y a pas un hommage à je ne sais qui, mais c'est aussi une réunion d'atelier. On rassemble les amis, hein, qui sont aussi bien écrivains que peintres, que musiciens. Là, c'est une œuvre de Jean Gigou, hein, qui est un artiste du 19e siècle, romantique, hein, originaire de Besançon. Il est à droite. Et donc, il est là, dans son atelier, entouré de ses amis. Il les représente. C'est quoi ça? Quelque part, c'est plus qu'une vanité, ou différent d'une vanité. C'est un peu le thème de la vanité, oui, puisqu'il y a un squelette. Mais c'est quoi aussi? Alors, il y a effectivement la mort. Qui fait quoi? Alors, qui met la machine à pain? Mais plus que ça. Elle joue du violon. Hein, la mort est en train de jouer du violon à l'oreille de qui? Du peintre. Hein, voilà. Ça rappelle quoi? La référence, elle est où? Quelle est l'idée qu'il y a derrière? Alors, c'est effectivement romantique, hein, c'est l'éternelle question du lien entre l'homme et la mort, et le peintre et la mort, absolument. Hein. Et puis, la référence, c'est quoi? Qu'est-ce qui... Ça résonne avec quoi, un portrait comme celui-là?
Mais lui, il continue à peindre ou il hésite?
Ah oui, il continue à peindre ou il hésite, effectivement, on peut se poser la question. Moi, j'ai pas la réponse, d'ailleurs. Hein. Mais ça vous rappelle rien. C'est tristissime, ça?
Non.
Ben non, c'est les deux. À la fois, c'est un peu lourdingue, hein, parce qu'il y a quand même la mort qui est en train... C'est pas rigolo, bon. Mais en même temps, il y a aussi une espèce de jovialité. La mort, elle rigole aussi. Puis le type a pas l'air trop plombé, hein, entre nous, hein. Bon. Voilà, quelque part, c'est un peu une inspiration, effectivement, hein. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle pas quelque chose? Pensez que ces artistes sont des gens qui ont plein de choses en tête, hein. Quand on est un artiste, on a plein d'images, hein, et voilà, hein. Ça rappelle le violon dingue, si on veut, mais surtout, ça rappelle quoi?
Macabre.
Eh ben voilà, les danses macabres. Hein. Vous vous rappelez des danses macabres, vous en avez sûrement vu d'ailleurs. C'est une peinture qui date de la fin du Moyen-Âge. On voit par-dessus, bras-dessous, des squelettes et des vivants en train de danser. Hein. Et ben, vous avez là une sorte de danse macabre moderne. La mort, assez sympathique finalement, est en train de jouer du violon avec le peintre. Hein. Le peintre, c'est Arnold Böcklin. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre. Qui est un peintre suisse du 19e siècle, qui a fait des choses extravagantes, hein, vraiment étonnantes. Et ben voilà, voilà son autoportrait. Et là,
c'est encore un peintre.
Encore un peintre.
Oui, non, c'est pas un peintre.
Oui, un peintre, un autoportrait, vraiment un autoportrait simple en peintre. Ouais. Là, il n'y a pas d'affect. Tiens, vous avez une idée de l'auteur? Manet, absolument, bravo. Je voulais passer, je pensais que vous... Eh ben, c'est bien, bravo. Parce que c'est pas l'autoportrait le plus connu de Manet, hein. Il est dans une collection privée, on ne le voit jamais. Donc c'est un autoportrait de Manet, très bon, qui se présente tout simplement en peintre. Hein. Ce sont les impressionnistes, ils vont pas vous mettre un squelette ou se représenter démiurge avec un fond d'orage derrière eux. Hein. Voilà. Donc il se représente tel quel dans son atelier, tranquille. Et là... Là aussi, cet autoportrait, il fait poindre quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Ah, mais,
pardon.
Il se peint dans son environnement. Il y a la cheminée ou je ne sais quelle.
Oui.
Il
est
dans une glace.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il peint son reflet dans la glace. Oui. Et vous voyez qu'ici, le chandelier a son reflet. Oui, ouais, absolument. D'ailleurs, soit on pourra faire un autoportrait, on est d'ailleurs obligé de passer par cet artifice. Mais là, l'artifice, il est bien visible. Hein. En fait, on voit bien le portrait. Et là aussi, vous connaissez le peintre. Très bien, même. Très, très, très bien.
Cézanne.
Pas Cézanne. Mais on n'est pas loin. On est dans l'époque. Alors, je vous mets sur la voie.
Mais ça commence par quoi?
Par T.
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 Paterner. Un peintre dont les tableaux ne ressemblent pas du tout à ça.
Tissot.
Pas Tissot non plus.
Non,
un peintre vraiment très célèbre. Vous le connaissez tous par cœur, n'est-ce pas? Un peintre très alerte, très gai, un peu canaille.
Toulouse-Lautrec.
Toulouse-Lautrec, et voilà.
Il est petit.
Hein, et voilà. C'est Toulouse-Lautrec. Hein. Vous voyez qu'il y a des surprises. Hein. C'est un autoportrait de Toulouse-Lautrec. Hein. Et qui n'a pas représenté que des filles de joie dans des bordels. Hein. Il est capable de faire d'autres choses. Alors là, je vous l'ai dit, ce que je me suis dit, après tant d'efforts, il fallait du réconfort. Alors là, c'est trop facile, n'est-ce pas? Voilà, vous le connaissez. Entre parenthèses, Van Gogh, voilà encore quelqu'un qui s'est représenté 10 000 fois. Hein. Les autoportraits de Van Gogh, il y en a. Hein.
Oui, mais avec l'oreille,
il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais effectivement, là, il s'est représenté après s'être coupé l'oreille. Enfin, vous connaissez l'histoire. Oui. Bien.
Gauguin.
Voilà, facile. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cet autoportrait de Gauguin? Alors, Christ, oui, il n'y a que le Christ.
Non.
À droite, il y a autre chose.
On ne voit pas bien.
On voit assez bien, mais quand on ne connaît pas trop, effectivement, ça.
C'est un masque.
Alors, oui, c'est une sorte de masque à droite. Pas tout à fait un masque, mais une sorte de masque. Vous avez une idée de ce que c'est? Une référence à quoi? Oui, exactement. C'est-à-dire que le portrait de Gauguin ici est un moment où Gauguin va quitter la Bretagne pour aller en Polynésie. Et on est là dans l'entre-deux, il va partir. Attention, il a été un peu, tout le monde l'a un peu laissé tomber en métropole, il va aller en Polynésie. Et vous avez un Christ breton, mais assez primitiviste, hein, quelque part. Et à droite, vous avez une sorte de vase que Gauguin lui-même a fait, mais d'après des modèles exotique, si vous voulez. Hein. Et bientôt, il part en Polynésie. Donc on est là, devant le peintre qui, finalement, expose à l'arrière l'univers plastique qui est le sien, derrière ou devant lui, quelque part. Hein. C'est le fameux autoportrait au Christ jaune, hein, très, très célèbre. Alors, où est le portrait, là ? Ils ont tous un peu des chapeaux. Bon, hein. Le voilà, effectivement.
C'est évident.
Alors là, l'idée, c'est quoi ? Bah, une sorte de carnaval. On est à Châlons, on sait ce que c'est qu'un carnaval. Bon. Et pourquoi est-ce qu'il représente au mieux d'un carnaval ? Oui. Quelque part. Pardon ? Oui, une sorte de vision de l'humanité, une sorte de manière allègre de représenter l'humanité. Allègre ou pas, d'ailleurs. Hein.
Oui,
il y en a qui sont peut-être pas si rigolo que ça. Hein. Mais c'est ça, le carnaval. Hein. C'est drôle et pas drôle. Hein. C'est comme la danse macabre. Elle est pas drôle et drôle. Hein. Carnaval, c'est très drôle, puis pas très drôle. C'est les deux choses. Hein. Voilà. Et l'auteur ? Ouais, J'aime s'en sort. Hein. Le fameux artiste belge, hein, que vous connaissez, qui a présenté des quantités de masques et de figures carnavalesques. Hein. Voilà. C'est son fameux autoportrait au masque. Voilà, vous connaissez, hein. Bien. Donc le fameux autoportrait de Picasso, hein. C'est pas l'autoportrait le plus célèbre de Picasso, mais enfin, on le connaît, même si on ne le reconnaît pas forcément. Hein. Et là, alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur un portrait tel que celui-là ? C'est ce qu'on appelle la période bleue, effectivement. Hein.
Il est triste. Il est émacié.
Oui, un côté émacié, un peu triste. Hein. Là aussi, il vous fixe hein, avec ses yeux qui vous épinglent sur le mur. Hein. Pardon ? Oui. Ah oui. Parfois, on en a eu, et puis on en a moins. Hein. Hélas. Enfin, hélas ou heureusement. À vrai dire, ça m'est un peu égal. Et ça ?
C'est une photo.
Alors, ce que vous avez là fait beaucoup penser à une photo, effectivement.
C'est une peinture sur David
Bowie. Ah, ça pourrait être David Bowie, oui. Sauf que ça a un siècle de plus. Donc, c'est vrai que ça ressemble à une photo, mais ça n'est pas une photo, c'est une peinture. Mais votre réaction était intéressante parce que ça montre bien comment une œuvre comme celle-là, qui date du début du XXe siècle, hein, là on flirte avec le début du XXe, intègre l'art de la photo dans la peinture. Hein. Tout comme bien la photo va intégrer la peinture dans son art. Hein.
Oui, mais ce n'est pas un portrait d'après une photo.
Difficile de le dire. Le peintre qui a fait ça a tellement flirté avec tous les domaines de la peinture. Donc c'est possible, effectivement. Vous connaissez le peintre, peut-être ?
Alors, est-ce que c'est ce qui est marqué
Je
ou pas
crois. Oui, c'est lui. Spillière. C'est Léon Spilliaert. C'est un. Vous savez qu'il y a eu en Belgique, on parle toujours d'Ensor, mais il y a une école belge de peinture tout à fait passionnante. Hein. Il y a eu toute une série d'artistes très post-symbolistes, hein, extrêmement étonnants, comme Félicien Rops, etc. Et notamment Spilliaert, dont vous voyez là cet autoportrait. En effet, vous avez dit c'est Bowie, c'est amusant, parce que Bowie est quelqu'un qui se référait tout à fait à ces artistes gandins et décadents hein, de la fin du 19e, début 20e. Hein. On est donc effectivement dans cette ambiance. Hein. Voilà. Hein. Là, vous le connaissez, c'est Gonschiller. Et Gonschiller est un artiste de quelle nationalité ? Non, pas allemand. Autrichien. Hein. Hein, ça a son importance. Vous savez que Vienne va jouer un rôle capital hein, dans l'évolution des arts en Europe fin 19, début 20e. Hein. C'est une espèce de creuset contondant, hein, Vienne, où il n'y a pas que Egon Schiele, d'ailleurs. Hein. Il y a Klim, Kokoschka, etc., vous les connaissez. Hein. Et voilà un autoportrait un peu... Comment ?
Torturé.
Oui, on est là dans un artiste torturé, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Hein. Voilà. Ben, disons un artiste en questionnement permanent, moi, je dirais. Hein. Egon Schiele, c'est un artiste, il faut un peu s'accrocher. Hein. En tout cas, ça donne des œuvres étonnantes, hein, comme celle-là, qui date de 1912, hein, ça a plus d'un siècle quand même. Hein. Vous êtes là devant des œuvres, évidemment, qui sollicitent beaucoup les artistes d'aujourd'hui, parce qu'on est là dans une œuvre qui n'a pas pris une ride quand même. Hein. On est avant la Première Guerre mondiale, quand même. Hein. Étonnant. Hein. Bien. Parfait. Ben écoutez, on a regardé beaucoup de, d'autoportraits, c'est bien. Mais je voudrais maintenant qu'on termine, qu'on continue cette séance, par une question qu'on ne s'est pas posée encore, c'est-à-dire, quelle est l'origine du portrait en Occident ? Parce qu'on a vu à quoi servait un portrait, ce que c'était qu'un portrait, on a regardé plein d'autoportraits, par contre, il y a une question qu'on ne s'est pas posée, quand est-ce que ça commence, le portrait en Occident ? En Europe occidentale, si vous préférez. Hein ? Ça commence quand ? Hein ? Dans le monde occidental, plutôt que l'Europe occidentale, dans le monde occidental, le portrait, ça commence quand ? Est-ce qu'on a toujours fait des portraits ? Comment, etc. Quel est le début du portrait dans le monde occidental ? On peut déjà d'ailleurs peut-être commencer par la question des origines mythiques du portrait. Est-ce que vous avez une idée de l'origine mythique du portrait ? Vous savez, en peinture, hein, les mythes, c'est très important. Rappelez-vous Zeuxis, dont on a parlé la dernière fois. Rappelez Zeuxis, avec son histoire des raisins, là. Hein. Rappelez de ça. Et vous rappelez même que Rembrandt lui-même s'est représenté en Zeuxis. Donc ces idées mythiques, mythologiques de l'art, elles sont fondamentales. Hein. Alors, quelle serait, peut-être, l'origine mythique du portrait ?
L'histoire de Dibutade. De Dibutade.
Alors, absolument. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'histoire de Narcisse, qui est une origine mythique, effectivement, sauf que dans Narcisse, je vous rappelle, il regarde son image dans l'eau, mais il ne fait pas son portrait. Hein ? Voilà. Il regarde son portrait dans l'eau, mais il ne le fait pas. En effet, c'est ce que vous disiez, la première occurrence mythique du portrait, c'est l'histoire de Dibutade. Certains d'entre vous doivent s'en rappeler, parce qu'on en avait parlé dans un atelier sur le dessin.
Oui.
Hein, vous vous rappelez ? Alors, je vous remontre le tableau, un des tableaux qui montre ça. Hein. En fait, cette histoire de Dibutade, que je vais raconter en deux secondes à ceux qui n'étaient pas là pour l'atelier pour le dessin, elle vaut aussi bien pour l'invention du dessin que l'invention du portrait. Hein. C'est une scène mythique fondamentale dans notre imaginaire collectif. Hein. C'est que notre imaginaire collectif est fait de plein de choses que quelquefois on ignore, mais qui sont un peu les bases de la culture européenne. Hein. Et ben pour l'invention de rien moins que les arts plastiques, le dessin, autrement dit, et le portrait, la grande scène mythique originelle, c'est ça. Alors je vous rappelle l'histoire, qui d'ailleurs connaît différentes variantes, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Il y avait un homme qui s'appelait Dibutade, qui avait une fille qui était amoureuse d'un jeune homme, et ce jeune homme devait partir à la guerre. Bon, alors elle s'est dit, ne se consolant pas du fait de le voir partir à la guerre, qu'elle voulait en garder le portrait, l'image, si vous voulez. Elle n'avait pas d'appareil photo. Hein. Donc, parce qu'on est au 10e siècle avant Jésus-Christ. Hein, donc, voilà. Alors, elle va demander à Dibutade de se mettre contre un mur. Elle va mettre une lumière qui va projeter l'ombre de son amant sur le mur. Et elle va dessiner sur le mur le profil de son amant. Comme ça, elle gardera toujours son image. D'accord ? C'est ce que vous voyez là. Vous voyez la fille de Dibutade en train de dessiner le profil de son amant sur le mur. Vous voyez l'amant, vous voyez la lampe à droite. Bref, voilà l'origine du portrait. C'est comme ça, dit-on, hein, dans ce mythe originel de notre culture, que le portrait a débuté dans le monde occidental. Voilà l'origine du portrait.
Mais les peintures rupestres qui représentent le mythe.
Alors,
pas dans, cette...
ben, dans les peintures rupestres, vous avez guère de portraits.
Il y a des portraits, quand même.
Il y a des images, des figures. Images, oui. S'agit-il de portraits ? Alors là, non, pas sûr. D'abord, non, c'est très rare, hein, des figurations humaines dans les peintures pariétales. Ben, il y en a, à Lascaux, il y en a une, c'est pas fréquent. Hein. Et sont-ce des portraits ? Rien ne le dit. Figures, sans doute. Portraits, pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Et puis, quand bien même, c'est pas des origines mythiques, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'Occident s'est donné, j'allais dire collectivement, hein, comme mythe originel de l'invention du portrait, l'épisode que vous voyez là. Alors, je vous montre cette œuvre de Suvé, qui est un artiste du XVIIIe siècle, mais je pourrais vous montrer des dizaines de tableaux représentant ça. Beaucoup d'artistes ont représenté ça, hein. Beaucoup. Hein. C'est un mythe vraiment porteur. Hein. Alors, voilà l'origine mythique, mais quelle est l'origine historique du portrait ? Le portrait dans le monde occidental, hein. Ça commence quand ? Avec quoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Pardon ?
Avec
les monnaies, ça joue un très grand rôle, vous avez raison. Hein. les Monet jouent effectivement un très grand rôle dans l'origine du portrait. Ça, c'est vrai. Et
oui, mais on a perdu beaucoup de choses de peinture grecque, alors on ne sait pas.
Eh oui, on a perdu effectivement beaucoup de choses, hein, parce que l'origine du portrait est sans doute très ancienne. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, donc c'est un peu dur, quoi. Hein. Comment reconstituer cette origine du portrait ? Ben, j'ai travaillé pour vous.
Ah, eh, merci.
Ouais, ça m'arrive rarement, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai collationné une série de portraits et, comme d'habitude, j'ai mis mes diapositives dans un mauvais ordre parce que je suis un peu désordonné. Voilà. Donc, on va devoir reclasser les vues que je vais vous montrer et puis, évidemment, trouver ce dont il s'agit. J'en ai mis 13 pour que ça nous porte bonheur. Et puis, 13, je me suis dit, pour trois quarts d'heure, on devrait y arriver. Voilà. Pour la fois prochaine, terminer cette série d'une manière directe. Hein. Donc, je vais vous passer les petites diapositives en question. Alors, on va les regarder une fois, deux fois, et puis on va essayer de s'y retrouver. Voilà la diapositive numéro 1. Alors, on verra après. On va déjà les voir toutes une fois.
Fayou.
C'est
à Venise. Oui, non.
Alors,
Socrate. J'en ai entendu. Alors, attendez. On va revenir. Voilà. Il y a des numéros. On va essayer de les mettre dans l'ordre. Hein, relativement. Et puis, après, on essaiera de commenter tout ça. Alors, on recommence. Bon, le numéro 1, ok. Le numéro 2, vous le mettez avant, vous le mettez après
Avant.
Tout le monde est d'accord? Ça, c'est avant ça. Ouais, donc ça après, ça avant. Parfait. Donc 2, 1. Ensuite.
Ça, c'est après.
3 après le 1. Ça donnerait 2, 1, 3. On est OK?
Donc
ça, ça... C'est en deuxième position, ça c'est en première, ça c'est en troisième.
Oui,
ça.
Ok. 4. Oui.
Après notre gars.
Oui.
D'accord, très bien. Donc ça nous donne 2, 1, 3, 4. Tout le monde. Ah non. Vous le mettez avant ça ?
Non.
La dame peinte avant ça ?
Oui.
Donc vous préférez 2, 1, 4, 3 ?
Oui. Non.
Vos désirs sont des ordres.
Alors, ça, c'est récent. C'est plus récent.
C'est récent ?
Non. Ça date de la Renaissance.
Renaissance ? Voler, amener à Venise.
Oui, amener à Venise. Tu t'en souviens ? Amener à Venise, c'est sûr.
Oui, mais je mets ça où, moi ? Parce que voler, amener à Venise, d'accord, mais je mets ça où ?
Ça vient de Constantinople, je me rappelle bien.
Et alors, ça, je le mets où ? Je le mets avant ça, après ça. Oh, pardon.
Non.
Par rapport à ça.
Après.
Je le mets après. Je le mets en dernière position.
Pour l'instant.
Oui. Très bien. Et ça ? Ça, c'est ? Alors, j'entends avant et après, me voilà tiraillé. On va mettre vers le milieu. Hein ? Après le 3, par exemple. C'est une suggestion. Hein ? Moi, je suis pour la paix dans les familles. Très bien. Une impératrice romaine. Alors, on la met quoi, à la fin?
Après Auguste.
Donc, ça nous fait 2, 1, 7. Ah, bien, bien après. Bon. Ça patauge un peu. Bon, en tout cas, après Auguste, plus ou moins. D'accord ? Après, avant. À nouveau, me voilà tiraillé. J'entends des avant et des après. Au milieu. N'ayez crainte, nous allons ordonner tout ça après. Je pense que ce sera nécessaire. Très bien. Vers le milieu de la fin. Enfin, vers le... Bref. Enfin, pas tout à fait au départ. Début, fin, milieu. Fin. Avant la fin. Et bien avec ça. Alors ça on le met où? Ah, au début. Alors et là je ne peux pas repianoter devant vous. Hein. Mais vous avez tous pris des notes, je pense. Non? Et là, oui, pas bien sûr.
Il a un drôle de regard.
Tardif.
Mais le regard est bizarre.
Avec la barbe, les yeux.
Vers la fin, ça aussi.
Oui.
Ouais.
Oui.
Allez, on le met à la fin.
En dernier.
En dernier, alors. Ça, c'est la fin de la fin.
Hein. Non.
Ça, c'est avant la fin.
Oui.
Un petit milieu. Ah oui, mais au début, à la fin et au milieu, moi, je ne peux pas trancher. Bien. Alors, on va... Oh là. Oh, attendez, je ne vais pas du tout dans... Je ne vais pas du tout dans le bon sens. Ça va. Oh là là, pas du tout. Oh, ça ne va pas du tout. Ne regardez rien. Je me suis trompé.
La collection est pareille.
Hein.
Voilà. Vous avez
relevé,
mais...
Vous voyez tout de suite. Voilà. Mais il y a des touches qui ne sont pas comme sur mon ordinateur. C'est très embêtant. Bien. Alors, pour résumer, vous disiez que ça, c'était plutôt vers le début. Ça aussi. Là, vous étiez plutôt vers un milieu. Là, vous étiez vers le milieu.
Non.
Avant. À le début, alors.
Non. Non. Premier siècle après Jésus-Christ.
Avant le début.
Premier siècle après Jésus-Christ.
Donc, assez tôt. Là, vous étiez plutôt vers la fin du milieu, si ma mémoire est bonne. J'essaie de traduire. Hein. Là, vous étiez plutôt vers le début de la fin. Ah, là, on était au milieu. Là, vous étiez plutôt vers la fin. Là, pas tout à fait vers la fin, mais plutôt vers la fin. Là, au début. Là, vous disiez plutôt vers la fin, milieu-fin. Là, vers la fin. Et là, le trait, oh, vous le mettiez courageusement vers le milieu. Bien. Correction. Périclès, ça, c'est facile. On me rappelle qui est Périclès et quand a vécu Périclès. 5e siècle avant Jésus-Christ. Pardon ? Alors, le buste est plus tardif, c'est vrai, mais encore.
IIIe siècle.
Rappelez-moi quand même, en deux mots, hein, quels sont les grands, quelques-uns des grands faits de Périclès.
Il est mort de la peste.
C'est vrai. C'est vrai. C'est il ne peut pas grand-chose, d'ailleurs. Hein.
Il a défendu Athènes.
Pardon ?
C'est un grand défenseur.
Stratège.
Grand stratège, le grand défenseur d'Athènes, effectivement. Hein. Et on doit quoi, en particulier à Périclès ? Voilà. Hein. On va dire qu'une grande partie des monuments actuels de l'Acropole, c'est Périclès. Il se trouve... Alors, est-ce que ce portrait, vous pourriez le mettre en lien, justement, avec cette vie de Périclès ?
Il a présenté avec le casque.
Il a présenté avec le casque. Pourquoi, d'ailleurs ? Conquérant. Voilà. Ouais. Vous savez que, quelquefois... Je m'attendais à ce que vous le disiez, d'ailleurs, mais non. Quelquefois, on a dit que Périclès avait un crâne en pain de sucre et que pour cacher ça, on lui a mis un casque sur la tête. C'est complètement faux. Hein. Ce qui est vrai, par contre, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le type du conquérant, dans l'Antiquité, soit représenté comme ça avec un casque qu'on rabat après, hein, mais qu'on monte sur la tête quand on n'a pas besoin d'avoir la tête cachée, enfin le visage caché par le casque.
C'est Athéna aussi.
Voilà, exactement. Athéna en est un bon exemple aussi. Alors, pas toujours le casque devant le visage. Bien. Ok. Pourquoi a-t-on décidé de faire un portrait de Périclès ?
Parce que pour l'honorer.
Pour l'honorer. Hein. Pour l'honorer, on décide en effet de réaliser un portrait de Périclès. Par exemple, il en existait toute une série. Hein. Mais il y avait notamment un portrait de Périclès à l'entrée de l'Acropole d'Athènes. Hein, pour la raison qu'on vient de dire. Hein. Voilà. Et alors, vous avez dit aussi que ce portrait-là, était plus tardif que l'original. Et ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que le portrait que vous avez là, alors suivez-moi bien, c'est un portrait qui date du 2e siècle après Jésus-Christ. D'accord ? Mais qui est la copie en marbre, réalisée à l'époque romaine, d'après un original qui, lui, était sans doute en bronze, réalisé en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous me suivez ? Voilà. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de sculptures grecques étaient en bronze. Et les Romains étaient tellement fanatiques de sculptures grecques qu'ils ont souvent fait des reproductions des sculptures en question en bronze ou des copies en bronze ou en marbre. Hein. Voilà. Le problème, c'est que le bronze, ça se fond et c'est cher, alors que le marbre, vous ne pouvez rien en faire, sinon de la poussière hein, et du stuc. Alors, beaucoup de marbre sont encore conservés, alors que beaucoup de bronzes ont totalement disparu. C'est rarissime, mais, enfin, c'est très rare, les bronzes antiques, parce qu'on les fondait, tout simplement. Donc là, vous avez une copie, d'après l'original du 5e siècle, qui avait été faite par un sculpteur qui s'appelle Crésilas. Hein, une copie réalisée d'après l'œuvre de Crésilas du 5e siècle, et cette copie a été réalisée en Italie romaine au 2e siècle de notre ère. En deux parenthèses, c'est sûrement une œuvre, c'est pas absolument certain, mais très vraisemblable, qui vient de Tivoli. Ça vous dit quelque chose ?
Tivoli.
Voilà. Alors, pas la Villa d'Este. Hein. À Tivoli, il y a deux villas
célèbres.
Il y a la Villa d'Este et la Villa d'Adrien. Hein. Hein, la villa de l'empereur Adrien. La Villa Adriana. Hein. La Villa d'Este est une villa en gros de la Renaissance. Hein. La Villa Adriana est une villa antique, qui était une villa aménagée par Adrien, le fameux empereur des mémoires d'Adrien et de Marguerite Ursona. Bien. Et vous savez que Adrien hein, avait une passion pour la Grèce, qui était son modèle. Hein. Alors il avait fait aménager dans la Villa Adriana à Tivoli une sorte de monde miniature, entre guillemets, où on retrouvait dans un environnement très artistement organisé des références à tout ce monde antique qu'il admirait, aussi bien l'Égypte que la Grèce. Par exemple, il y a un secteur qu'on appelle le Canope, du nom d'un quartier d'Alexandrie, etc. Et il avait fait orner cette villa et ses jardins de quantités de sculptures qui sont des copies d'époque romaine d'après des originaux grecs, d'accord ? Dont Périclès. Ok ? En tout cas, cette œuvre-là, elle est très importante. Je vous montre celle du British Museum, mais il y en a d'autres, hein.
parce qu'encore une fois, les Romains ont beaucoup copié le portrait de Périclès. Hein. Mais c'est important parce que c'est un des tout premiers portraits, c'est sans doute pas le premier, hein, mais en tout cas, c'est un des tout premiers portraits vraiment, on va dire, connu, balisé de l'histoire de l'art occidental. C'est une des premières fois, c'est pas tout à fait la première, mais une des premières fois où on fait vraiment un portrait qui est sans doute assez proche de la réalité, même si on peut dire quoi, à votre avis, quand même ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est à la fois proche de la réalité, mais il y a aussi une idéalisation. Il y a un peu les deux. Hein. À la fois, c'est bien lui, mais en même temps, on a un peu arrangé les choses. D'autant plus arrangé que Crésilas a fait le portrait juste après la mort de Périclès. Donc il n'avait pas Périclès sous les yeux. Enfin, il avait sans doute quand même des possibilités de le bien connaître. Bien.
Alexandre.
Hein. Vous avez là Alexandre. Alexandre. Alors, vous me rappelez en deux mots Alexandre, quid, quand ?
Le grand.
Alexandre le grand.
Le grand
jeune. Ouais. Ouais. Roi de Macédoine. Quelle période ? Troisième. Troisième avant. Donc, on est après Périclès. Ce que vous avez là vient après ce qu'on vient de voir. On est d'accord ? Même si, là encore, il s'agit, on s'accroche, de la copie romaine en marbre, d'après un original en bronze, datant de l'époque d'Alexandre. On est d'accord ? C'est le même cas de figure que pour Périclès avant. D'accord ? Ok ? D'ailleurs, ce buste vient sans doute aussi de Tivoli et de la Villa Adriana. Bien. Alors, là aussi, quand vous voyez ce portrait-là, qui n'est encore une fois que la copie d'après l'original... L'original était dû à un sculpteur qui s'appelle Lysippe. Lysippe était le sculpteur lié à Alexandre, tout comme il avait un peintre lié à lui qui s'appelait Appel. Hein, Appel et Lysippe sont les deux artistes d'Alexandre, l'un peintre, l'autre sculpteur. Qu'est-ce qu'on peut dire là aussi sur ce portrait d'Alexandre, à votre avis ?
Un peu grossier.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une copie un peu maladroite. Hein. Elle est importante parce que c'est une des seules qu'on ait d'après l'original de Lysippe. Mais c'est un peu lourdingue, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous diriez, même si c'est en effet un peu lourd, qu'est-ce que vous diriez, un peu comme ce qu'on vient de dire pour le Périclès de...
Là, il n'est pas embelli.
Pardon ?
Là, il n'est pas embelli.
Alors, il est pas embelli parce que la sculpture est un peu... Le Périclès de Crésilas, voilà. Il n'est pas embelli parce que la sculpture est un peu lourde. Hein. Mais vous trouvez qu'il n'est pas embelli, vous ? Moi, je pense qu'il est... Enfin, c'est pas que je pense, je suis sûr même, qu'il est, comment vous dire, c'est un peu comme Périclès, c'est-à-dire qu'on a donné à Alexandre les traits qui étaient les siens, mais en arrangeant un peu les choses. Alors là, il se trouve que le copiste qui a fait cette sculpture d'après l'original, vous me suivez, n'était pas un sculpteur de première, si j'ose dire. Hein. Donc c'est un petit peu lourd, hein, un peu empâté. Mais, si vous voulez, ce genre de portrait, comme pour Périclès, va définir un type d'Alexandre. Après, on présentera toujours Alexandre comme ça. Toujours. Hein, c'est une espèce de, voilà, de motif permanent.
C'est un type qui n'a pas peur.
Alors, à l'origine d'ailleurs, le portrait d'Alexandre fait par Lysippe au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, ce portrait de Lysippe, ce portrait d'Alexandre par Lysippe, est un portrait qui, à l'origine, représentait Alexandre comme ça. C'est-à-dire que c'était un Alexandre en pied, qui était debout, et qui tenait une lance. Hein, voilà. Alors là, la lance, elle n'est plus là, parce que dans cette statuette, c'est un peu cassé, mais imaginez qu'il tenait une lance. Donc vous avez là aussi, hein, une copie faite après, mais ancienne, hein, qui date aussi du IVe siècle, comme l'original. Hein. Mais c'est une petite statuette qui est au Louvre, hein, et qui vous montre à quoi ressemblait le portrait de Lysippe, sauf que le portrait de Lysippe faisait 2 mètres de haut, quasiment. Hein. Donc, le buste que vous venez de voir, imaginez-le, n'est-ce pas, qu'une copie partielle du prototype dont vous avez là une autre copie.
Mais on faisait des réductions.
Voilà, exactement. C'est une réduction.
Oui, mais techniquement.
Je pense que c'est une réduction qui a été faite peut-être pas avec les méthodes de réduction qu'on a pu évoquer quand on a parlé de sculpture, par exemple. Hein. Mais évidemment, c'est une réduction. Hein. Vous avez là une copie miniature de l'original réalisé par Lysippe. Vous suivez cette affaire d'original, ouais, et de copie? Yeah.
Bah, pour l'instant, on n'est pas trop mal par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos chiffres. Hein ? Mine de rien. C'est après que ça se gare. Et là ? Alors, là, vous l'aviez mis beaucoup plus tard. Alors là, c'est moins bien. Ah, c'est un philosophe. C'est peut-être... Enfin, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais c'est plus, entre guillemets, qu'un philosophe. Là, vous avez un de nos pères. Un des pères de la culture européenne, tout simplement. Pardon ?
Pythagore, non ?
Pas Pythagore.
Aristote.
Pas Aristote. Pardon ? Pas Xénophon. Ah. Pas Socrate. Pas Sénèque.
Mais est-ce que ce sera
ah. Homère. C'est Homère. Vous avez là Homère. C'est le buste d'Homère. Exactement, ça ne peut pas être un portrait. Ça ne peut pas être un portrait parce que, en fait, personne ne sait quoi ressembler. Donc, en fait, il se trouve qu'à l'époque hellénistique, précisément au IIe siècle avant Jésus-Christ, on a décidé de créer un portrait d'Homère. On ne sait pas du tout à quoi il ressemblait. On savait deux, trois trucs. On savait qu'à la fin de sa vie, il était aveugle. On savait que c'était un personnage un peu habité de visions, tourmenté. Donc c'est pas un calme. Donc on lui a fait forcément une barbe. Hein. La barbe, c'est l'apanage du sage. Hein. On lui a fait des cheveux un peu en mouvement, hein, qui évoque que la passion. D'ailleurs la barbe aussi. Hein, voilà. D'où ce portrait là. Alors là, c'est pareil, c'est une copie réalisée plus tardivement, d'après l'original hellénistique grec disparu. D'accord ? Toujours la même chose. Hein ? Voilà. Donc en fait, vous voyez que l'art grec et précisément le portrait grec, on le connaît souvent par quelques originaux, mais aussi par des copies d'époque romaine. D'accord ? Hein ? Voilà. Donc là, vous avez le type d'Homère. Hein, au IIe siècle avant Jésus-Christ, on invente un Homère pour avoir un peu comme pour Alexandre et Périclès, quoi. Un type d'Homère un peu fiable, quoi, hein, que tout le monde puisse reconnaître. Hein. D'accord ? Pardon ? Voilà, alors c'était un peu chou blanc ici. Hein. Mais maintenant, vous reconnaîtrez Homère.
Oui.
Ben oui. Alors là, vous l'aviez pas bien placé non plus. Hein. Je vous fais... Pardon ? C'est Socrate. Hein. C'est Socrate. Hein. C'est Socrate, oui. Enfin, là, c'est la version du Louvre, mais oui. Donc, c'est Socrate. Hein. Alors, là, c'est pareil. Hein. Socrate, vous avez toujours un portrait réalisé, là aussi, d'après un original grec. Hein. Ça, c'est une œuvre romaine du 1er siècle, mais l'original, sans doute créé par Lysippos, le même qu'Alexandre, hein, date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Voilà. Alors là, c'est différent d'Homère, parce que l'auteur de l'original, lui, il pouvait connaître Socrate. Hein. Donc il n'y avait pas le même problème, si vous voulez. Oui, il pouvait connaître pas Socrate lui-même, mais des portraits de Socrate. Hein. Pas Socrate lui-même, mais des portraits de Socrate. Hein. D'où le fait qu'on a là quelque chose qui est davantage réellement un portrait que une imagination, si vous voulez. Hein. En plus, on savait que Socrate avait un nez comme ça, très, très épaté, etc. Donc, fort de représentations qu'il a vues de Socrate et de ce qu'on pouvait en dire, si vous voulez, hein, il a fait ce portrait. Donc, tout le temps, on représentera Socrate comme ça. Tout comme, à peu près à la même période, hein, on va faire un portrait type de Platon. Ça, c'est Platon, un des disciples de Socrate. Hein. Et ben voilà, on va toujours le présenter comme ça. Donc, quand dans un musée, vous voyez ça, vous savez que c'est Platon. Hein, vous voyez que dans l'Antiquité, on va comme ça très souvent créer une sorte de typologie, hein, de portraits qui vont être marqués par un type physique très, très spécial, très précis. D'accord ? Par parenthèse, ce qui est amusant, c'est que dans l'Antiquité grecque, où vous le voyez, on s'échine à faire des portraits,
Alors, soit réellement d'après des personnages bien vivants, Alexandre, soit d'après des personnages qui ont vécu, qu'elle voit il y a très longtemps, Homère, on crée donc des types, mais qu'on arrange un peu. Soit parce qu'on ne les connaît pas du tout, Homère, soit parce qu'on veut leur donner une stature, une posture héroïque, c'est le cas d'Alexandre. Bien. Et finalement, là où on va trouver, dans l'Antiquité grecque, les portraits les plus réalistes, les plus proches de la réalité, où on ne cherche pas forcément à, comment vous dire, modifier la réalité, c'est dans les représentations de sportifs. Vous savez que chez les Grecs, hein, le sport, c'est très très important. Hein. Là, vous avez une œuvre originale d'un sculpteur qui s'appelle Silanion. Silanion est un sculpteur du 4e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Et Silanion, on n'a plus rien de lui, sinon cette tête, qui a été trouvé à Olympie, hein, qui est aujourd'hui au musée national d'Athènes, et qui est non pas du tout une copie d'époque romaine, mais bien un original grec. Donc ça, c'est rarissime, hein, ce que vous avez là.
Mais
hein.
c'est pas un autoportrait.
Mais là, on parle de portrait, hein, plus d'autoportrait. Hein. Là, on est dans le portrait, l'origine du portrait. Hein. Et le portrait que vous avez là, alors, ça apparaît peut-être mal sur cette vue de face, mais en fait, quand on le regarde de profil, cet homme qui s'appelle Satyros, et qui était pugiliste, il a les oreilles un peu en morceaux, parce qu'évidemment, quand vous faites du pugilat, vous arrachez l'oreille, se coupe en deux, etc. Et puis, il a le nez cassé, et pas très droit, si vous voulez. Hein. Donc, si vous voulez, on n'a pas là du tout voulu montrer un pugiliste parfait, un peu comme on a refait l'image de Périclès ou d'Alexandre le Grand. Pardon ? Voilà, et c'est ça. Hein. Là, vraiment, on le montre. En plus, vous voyez, il est plus tout jeune non plus. Hein. On le montre vraiment dans son âge et avec les vestiges des luttes qu'il a pu donner. Voilà. OK ? Ça, c'était pour l'époque grecque. Le reste, c'est d'après. Romain, qu'est-ce qu'on voit là ?
Un
empereur,
un citoyen romain,
voilà, exactement, un citoyen romain avec, vous disiez quoi ? Voilà, c'est ça, hein. Il tient effectivement deux bustes de membres de sa famille. Alors, c'est pas un empereur, parce que c'est pas parce qu'on a une toge qu'on est empereur, hein. C'est un togatus, c'est-à-dire un personnage habillé d'une toge, et ça, c'est pas réservé aux empereurs, c'est un togatus. Il tient effectivement les portraits de deux membres de sa famille. Alors là, vous avez une sculpture en marbre, là, qui est un original romain. Hein. Là, on est après la Grèce, on est après tout bien après ce qu'on vient de voir. Hein. Donc là, c'est un original, c'est pas la copie en marbre après un original grec en bronze, c'est bien un original en marbre, bien. Mais dans la réalité, les bustes que tient ce personnage pouvaient être en quelle matière ? Imaginez que ça se transforme en la réalité. Hein. Ce personnage, en chair et en os, qui est là, il tiendrait des bustes peut-être en quelle matière ?
Bronze,
c'est possible. Marbre. Le bronze et le marbre, surtout le marbre, ça pèse son poids. Hein. J'aimerais pas être à sa place. En ivoire, peut-être. Mais il y a aussi une autre possibilité. Capitale pour notre question du portrait.
C'est des masques mortuaires.
Non. Alors, des masques, peut-être des masques mortuaires, et en quelle matière ? En cire. Ce que vous avez là, c'est peut-être la représentation d'un homme qui porte effectivement des portraits d'ancêtres, des portraits effectivement en marbre, en bronze, mais peut-être aussi des portraits en cire. Il y avait une habitude dans l'Antiquité romaine, c'était, dans les larères domestiques, d'avoir des portraits en cire d'un certain nombre d'ancêtres. Évidemment, ça n'a guère survécu, comme vous le savez. Mais j'ai voulu vous en chercher à photo, et là, je ne l'ai pas trouvé, mais on a trouvé à Herculanum, un larère, comme ça, familial, avec, fondu par la lave, hein, chaude, hein, mais quand même, la lave avait enfermé, si j'ose dire, les images de cire, plusieurs images, qui sans doute étaient en cire, d'ancêtres, qui étaient conservés dans un larère. Donc ce que vous avez là, c'est sans doute un homme avec ses ancêtres, peut-être en effet de vrais portraits, entre guillemets, en bronze ou en pierre, mais peut-être aussi en cire. Parce qu'il y avait vraiment une industrie du portrait d'ancêtres en cire. Et ça veut dire quoi, le fait qu'on ait des portraits en cire de ses ancêtres ? Le but, c'est quoi ? Puis la traduction, c'est quoi ?
Ça
La lignée, garder la lignée.
Alors, voilà, on garde la lignée.
Oui, mais
hein.
Et les femmes là-dedans.
Alors, il y a plus d'hommes que de femmes. Hein. Voilà, la filiation, le culte. Et alors, puisque c'était des portraits en cire, ça veut dire que ces portraits, ils étaient comment ?
Des masses.
Très ressemblants. Très réaliste. Là, on n'est plus du tout dans « je vous refais un peu le nez, puis je vous rebichonne un peu tout ça ». C'est des portraits très réalistes, parce que c'est des moulages. Hein. C'est des moulages en cire. Hein. Ce n'est pas des portraits où on essaie de... Ce sont des moulages en cire. Ça veut dire quoi, alors ? D'ailleurs, quand vous regardez...
Post-mortem.
Alors, des moulages en cire, peut-être post-mortem, encore vous pouvez faire des moulages, des moulages que vous tirez en cire sur un modèle vivant. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Mais ça veut dire quoi aussi dans l'évolution de l'art du portrait ? Voilà. C'est-à-dire qu'on va finalement évoluer vers le réalisme. D'ailleurs, quand vous voyez lui, quelque part, on peut penser que c'est un portrait très réaliste. Hein. On est loin d'espèce d'idéalisation qu'on a vue avec Alexandre ou le Périclès de Crésilas. Hein. C'est-à-dire que, et là, on est à quelle époque de la période romaine ?
République.
Voilà, on est dans la République. Hein. C'est-à-dire qu'on est finalement de manière assez précoce. Hein. On est là au 1er siècle avant Jésus-Christ, à la fin de la République. Hein. Et donc, c'est l'idée, effectivement, de ce réalisme républicain. Lui, vous l'aviez placé bien plus tardivement. Hein. En fait, c'est un portrait qui est tout à fait à placer dans cette lignée-là. On est devant un portrait également réaliste. Voilà. Toujours cette même idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus du tout de faire passer quoi que ce soit, c'est de montrer toutes les rides, tous les problèmes de peau, de tous les boutons, ils sont. Il y a tout. Donc on est là dans une espèce de d'anti-idéalisme. Hein. Vraiment, l'idée... du portrait républicain et de sa suite, hein, c'est d'aller vers un réalisme parfois presque caricatural. Vous voyez le même portrait de face et de quart de face. Là, alors voilà. Là, on est devant Octave, mais qui déjà s'appelle Auguste. Hein, voilà. Donc effectivement, c'est Octave Auguste, hein, donc le successeur de César. Hein. Alors, qu'est-ce que vous diriez de ce buste-là ? Il est jeune. Ben voilà. C'est-à-dire que, et ça vous rappelle quoi, justement ? Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez là la même idée qu'avec Alexandre. Rappelez-vous Alexandre. Lysippe, à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, fait un portrait d'Alexandre, héroïsé, tenant la lance. Mais on a vu dans le buste hein, que c'est un portrait ressemblant, mais idéalisé. On n'est pas dans l'invention pure, hein, on n'est pas non plus dans le réalisme, on est dans un entre-deux. Eh bien là, on a la même chose. Et pourquoi ? Pardon ? Voilà, c'est toujours l'idée du portrait officiel, la même chose que pour Alexandre ou Périclès. Hein. On veut créer une image officielle hein, du héros Périclès, du héros Alexandre, tout comme on crée une image officielle du philosophe Socrate, du philosophe Platon, de l'écrivain Homère. Hein, voilà. Il y a le héros de la littérature et de la philosophie, il y a les héros politiques, pourrait-on dire. Hein. Donc là, c'est la même chose, on veut créer un portrait officiel. Et ce parallèle que vous faites là entre cette image-là et des images grecques plus anciennes vous suggère quoi ? Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que Auguste, Octave, si vous voulez, hein, je vous rappelle que Octave va devenir Auguste. Hein, eh bien, cet empereur romain, ce successeur de César, quelque part se réclame des grands modèles grecs. Hein, mais il voit à sa place. Hein. C'est pas si simple hein, de prendre le pouvoir après César. Hein. Eh bien, pour quelque part installer sa position, il va faire de lui des portraits officiels. Et ces portraits officiels, il les plaque un peu, si vous voulez, sur l'idéal qu'a pu incarner autrefois Alexandre. Quelque part, il est un nouvel Alexandre. Hein. Alors, il ne ressemble pas à Alexandre, bien sûr, hein, mais c'est un peu la même idée. On a un portrait officiel qu'on va montrer partout, qui est présent d'une sorte de jeune héros, hein, qu'on verra tout le temps. Je vous montre là, on le voit là, hein, mais voilà toute une série de portraits d'Auguste. Alors qu'il ait une cuirasse, qu'il ait une coiffure, qu'il n'en ait pas, qu'il ait une toge sur la tête ou une couronne, c'est toujours le même. Donc partout aux quatre coins de l'Empire romain, vous le voyez. Si vous n'avez pas compris que c'est lui votre chef, c'est que vraiment vous n'avez pas Dieu pour voir. Hein. Vous le reconnaissez tout le temps. Vous voyez lequel il est. Il a beau être n'importe comment, vous le reconnaissez. Et dans votre inconscient, ça vous rappelle cet Alexandre dont on voyait encore partout l'image et dont l'aura flottait dans tout le monde antique. Il est quelque part, cet Auguste, une sorte de nouvel Alexandre. Pourquoi je vous montre cette dame ? Pardon ? Alors, Livy avait une chevelure, j'ai du mal à l'éviter, mais un peu différente. Hein. Elle a en fait une sorte de petit chignon à l'arrière, Livy. Pourquoi je vous la montre, cette dame, avec cette coiffure si...
Bah, c'est enfin une femme.
C'est enfin une femme. Il était temps. Hein. Déjà. Hein. Je sentais qu'il était temps de faire quelque chose.
Elle a un lien avec Octave ?
Non.
Non.
Sans doute. En fait, on ne sait pas qui c'est. Donc, ça résume la question. C'est une dame. Non, je vous la montrais surtout parce que elle a une coiffure très typée, c'est le mot qu'on puisse dire. J'aurais pu vous en montrer d'autres avec cette même coiffure. C'est une coiffure typique de l'époque flavienne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le portrait féminin romain, ce qui va participer aussi du réalisme, c'est bien sûr le visage, hein, qui est un peu dans la, comment dire, la tradition républicaine se veut réaliste, mais aussi la coiffure. Et en fait, grâce aux coiffures, on arrive à dater très bien ses portraits. Là, c'est une femme de l'époque flavienne. On est à la fin du 1er siècle. C'est sans pli. Un philosophe ?
Non.
C'est un empereur. C'est vrai qu'il ressemble à Marc Aurèle. Ça n'est pas Marc Aurèle, c'est un petit peu après. C'est pas Trajan. C'est pas Vespasien. C'est pas Cosme. C'est pas Adrien. C'est pas Auguste, c'est pas Tiers, c'est pas Caligula, ça n'est pas Clos, ça n'est pas Néron, ça n'est pas Vespasien, Titus, Domitien. Ça n'est ni Nerva, ni Trajan, ni Vespasien, ni Marc Aurèle, ni Cosme.
C'est pas un Romain.
C'est un Romain. Mais c'est après. Juste après. Non, avant. Il est né en Libye, à Leptis Magna. Une ville sublime, d'ailleurs, dont je ne sais pas dans quel état elle est. Mais sublime. Pardon ? Septime. C'est Septime Sévère. Alors c'est intéressant, vous le disiez, vous l'aviez dit peut-être ? Faut crier dans le fond. Hein. C'est Septime Sévère. Hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que à la fin de l'Empire romain, hein, on est là au début du IIIe siècle, on crée. J'aurais pu vous montrer plein d'autres portraits d'empereurs, mais on crée des portraits qui sont vraiment très en rupture avec ce qu'il y avait avant. On n'a pas là la rectitude. J'allais dire héroïque et glabre et idéalisé d'Auguste. Hein. Vous avez au contraire, vous voyez comme il ne vous regarde pas d'ailleurs, il est là, il regarde sur le côté. Il y a une espèce de romantisme, si vous voulez, qui véritablement remplace cette espèce de rectitude héroïque d'un Auguste, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous voyez le chemin parcouru, comme en deux siècles, on passe d'un héroïsme réalisant d'Auguste vers cette espèce de façon habitée d'un empire romain qui est différent. Qu'est-ce qui change après tout ? Qu'est-ce qui change dans la géopolitique du temps ? Pardon ?
La chrétienté qui apparaît.
Il y a la chrétienté qui apparaît. Ça fait déjà deux siècles qu'elle est en marche et là ça commence à...
C'est-à-dire la base
créer des choses, absolument. Quoi d'autre ?
Ça commence à craquer.
Ça commence à craquer. Ça commence à craquer de tous les mots. Hein. C'est que l'Empire romain, qui est quand même cet immense empire, qui va de l'Écosse aux confins de la Syrie à l'Afrique du Nord, ça commence à craquer de tous les bouts. Alors il y a quand même de quoi s'inquiéter un peu. Hein. Et cette inquiétude, vous la voyez. Hein. Si vous n'êtes pas là devant un Auguste sûr de lui et dominateur, hein, qui comme Alexandre domine le monde, hein, il lui manque la lance dans les mains, vous êtes là devant un septime sévère, comment ça se dire ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc vous êtes devant une espèce de... Vous pourriez faire le parallèle avec notre Brioulov de tout à l'heure, vous savez ? Ce prêtre russe avachi dans son canapé, là, tellement inquiet, tellement romantique. Ben vous avez le même, hein ? C'est-à-dire qu'il est vraiment... On est là, de quel côté ça va claquer, quoi ? L'Empire romain est cerné de toutes parts. Hein. C'est quand même un peu... Ben, on est là, devant un Septime Sévère qui, quelque part, s'interroge. Et ça ? Exact, bravo. C'est un portrait du Fayoum. Mais quand vous m'avez dit que ça vendait du Fayoum, vous ne m'avez pas dit ce que c'était qu'un portrait du Fayoum. C'est un portrait dit du Fayoum. Voilà, c'est les portraits du Fayoum. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Fayoum ?
C'est le lieu.
C'est le lieu. Hein. Voilà. Le Fayoum, effectivement, est un faubourg du Caire, hein, dans lequel on a trouvé une nécropole qui a livré de nombreuses momies avec des portraits de ce genre. Ces portraits, ils étaient placés comment ? Qu'est-ce que... Voilà, c'est ça. Ils étaient placés sur la momie, en fait. Hein. Sur la momie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sarcophage comme dans l'Égypte ancienne. Hein. Ils étaient placés directement sur la momie. J'ai dû mettre une diapo, d'ailleurs. Bon, voilà donc ce portrait. On est au 3e siècle. Vous les aviez mis un petit peu tôt, tout à l'heure, les portraits du Fayoum. Hein. Voilà. Alors, voilà d'autres. Hein. Vous connaissez. Hein. Il y a d'admirables. En fait, ces portraits-là sont les plus anciens portraits, pas occidentaux. Hein. Parce que occidentaux, parce qu'on est quand même dans l'Égypte romaine. Hein. Alors, hein, ça, c'est vraiment les plus anciens portraits peints qui existent en Occident. C'est absolument extraordinaire. Par parenthèse, j'espère que vous connaissez ceux qui sont conservés au musée des Beaux-Arts de Dijon. Hein. Une des belles collections de portraits du Fayoum, elle est à 60 km d'ici. Hein. Au musée des Beaux-Arts de Dijon, il y en a une quinzaine. Hein. Faut voir ça. Hein. Voilà. On va l'un d'autre. Hein. Hein, superbe. Quand même des choses magnifiques. Alors là, ça, qu'est-ce qui marque ces portraits du Fayoum ? Quelle est leur caractéristique ?
Le regard.
L'intensité, le regard. Et puis quoi d'autre encore ? Pardon ?
La sérénité,
la vie. Oui, la vie, la sérénité, oui. Bah, c'est normal, on les embaume, donc ils vont vivre éternellement. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même l'idée qu'il y a derrière ça. Hein. Tout comme Naguère Osiris coupé en morceaux a été embaumé par son épouse Isis, hein, qui en rassemblant les morceaux, en recollant tout, en faisant une momie, ressuscité, si vous voulez, il se passe la même chose pour ces gens-là. Il y a de quoi être content, quand même. Bon, hein, oui, sympathique.
Ils sont jeunes,
ah oui, souvent. Enfin, plus ou moins, lui, peut-être un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes... Oui, pardon.
On faisait avant qu'ils soient morts.
Alors voilà, on peut penser évidemment que ces portraits étaient réalisés de leur vivant et mis ensuite sur la momie, effectivement.
Oui, oui. Hein, je crois que ça a été vérifié.
Oui, oui, absolument. Absolument. Hein. Parce qu'en effet, il y a un côté très vivant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer justement par rapport à ce que vous dites, ce côté vivant ?
Le regard.
Oui, mais encore une fois, par rapport aux autres portraits qu'on a vus, est-ce qu'on est dans... est-ce qu'on est plus proche de des portraits romains de la République ou des portraits d'Alexandre ? Voilà, c'est ça. Hein. On est vraiment, et ça recoupe ce que vous disiez, hein, on est dans une réalité. Ce sont des portraits faits des gens, sans doute de leur vivant, et qu'on plaque ensuite sur leur momie. Voilà, c'est comme ça. Voilà un portrait du Fayoum en place. Par parenthèse, on appelle ces portraits du Fayoum, mais il n'y a pas que la nécropole du Fayoum qui en a livré. Hein. Voilà. En fait, beaucoup d'autres nécropoles en Égypte en ont livré, simplement puisque le Fayoum est la première nécropole un peu fouillée de manière spéciale, d'ailleurs, enfin, et connue. On appelle ces portraits du Fayoum, mais il n'y a pas que ça. Notez d'ailleurs que certains de ces portraits sont comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout une plaque peinte qui est... collé sur la momie, mais vous avez une sorte de plastron en relief, vous voyez, en stuc, hein, en cartonnage stucqué, et peint, et doré. Hein. Voilà. C'est d'ailleurs en général moins réaliste dans ces cas-là. Hein. C'est plus idéalisé. Alors on va terminer, et à l'heure, pour une fois, c'est pas beau ça ? Ah, vous avez été superbe aujourd'hui. Superbe. C'est Constantin. Vous connaissez cette œuvre, hein ? Comme vous savez, c'est à peu près, ça fait à peu près 2 mètres de haut. Hein. Ce que vous avez là est un élément d'une statue colossale. Hein. Hein, vous connaissez sans doute à Rome, au musée, c'est à droite au Capitole, c'est le palais des conservateurs. Hein. Donc où il y a ça, mais où il y a également sa main, son genou, hein, son pied, etc. Hein. On a plusieurs morceaux de cette statue étonnante. Qu'est-ce que vous diriez là ?
Il a l'air un peu abruti.
Un peu abruti. Voilà qui n'aurait pas fait plaisir à Constantin.
Ah, c'est réaliste.
Réaliste. Oui. Je dirais bien les deux choses que j'ai entendues. C'est-à-dire, on est à la fois dans quelque chose de réaliste. C'est-à-dire, Constantin, visiblement, on est là dans des traits réels. Mais il y a en effet un côté un peu figé, un peu marmoréen, si vous voulez, enfin, qui tempère un peu le réalisme. À vrai dire, on a un peu là, comme une sorte de retour, mais un peu plus glacé, hein, à ce réalisme idéalisé qu'on avait au départ.
Hein. Alors la taille joue dans l'importance.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que le fait que ce soit grand, gros, et que c'était, ça c'était sans doute à 8 mètres de haut. Hein. Donc voilà, il fallait que ça se voit aussi. Hein. Alors ça, votre fameuse histoire volée, etc. Racontez-nous l'histoire.
Je ne me souviens plus exactement.
Mais vous aviez raison. Hein.
Au printemps, ce printemps-là, à Venise, à l'angle du Palais des Doges, et je sais que c'est quelque chose qui a été volé à Constantinople.
Voilà, hein. C'est effectivement une œuvre qui se trouvait à Constantinople, hein, et que les Vénitiens ont ramené de Constantinople à Venise, et aujourd'hui c'est en effet, hein, sur la place Saint-Marc, c'est un angle de la basilique, hein, absolument.
Mais
ça représente quoi ?
Des tétrarques.
Des tétrarques. Ça veut dire quoi, les tétrarques ?
La tétrarque, c'est quatre.
Les quatre empereurs.
Les quatre empereurs.
Deux d'Orient et deux d'Occident.
Exactement.
Hein. Alors c'est peut-être pourquoi ils sont séparés.
Voilà. Hein. Il y a deux César et deux Augustes. Deux empereurs, oui, d'Orient, deux empereurs, mais d'Occident.
Quel est le matériau ?
Quel est-il ?
C'est du
porphyre. Hein. C'est une pierre qui vient d'où ?
Non, d'Égypte.
D'Égypte. Hein. Pierre qui vient d'Égypte. Donc vous avez là une pierre qui vient d'Égypte, qui a été sculptée sans doute en Asie mineure, qui était autrefois à Byzance, enfin à Constantinople, et qui a été amenée de Constantinople à Venise. Bien. Ça représente les tétrarques, parce que notre empire romain qu'on a laissé tout à l'heure avec Septime Sévère, qui craquait de tous les côtés, et qui inquiétait tant notre empereur Septime, ben il a fini par craquer. Et ça a tellement craqué qu'on s'est dit, bon... On va essayer de colmater les problèmes en divisant le pouvoir. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, et plus on va pouvoir arrêter les invasions barbares. Hein. Donc on a décidé de couper le pouvoir en quatre. Deux empereurs en Occident, deux empereurs en Orient. En se partageant le pouvoir, ça irait sûrement mieux. Et vous voyez ici les tétrarques, les quatre empereurs, deux César, deux Augustes, qui se partagent le pouvoir. En fait, ça a été bien pire. D'abord parce que les quatre empereurs se sont bouffés le nez, pour faire vite, hein, et que tout s'est terminé de la manière que vous savez, qui est l'invasion totale de l'Empire romain. Hein. Voilà. Tout ça n'existerait plus aujourd'hui, hein, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez là... oh non, les politiques ne se bouffent pas le nez aujourd'hui. Où est-ce que vous allez chercher ça ? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à la question du portrait en regardant les portraits des tétrarques ? Ils sont idéalisés et ils se ressemblent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous pareils. Hein. On voit bien vraiment comment l'idée du réalisme du portrait s'est complètement érodée, hein, et comment, à la fin de l'Antiquité romaine, hein, on en vient à une espèce de négation de la réalité. D'ailleurs, voilà le... Ça, c'est qui, ça ? C'est Théodora, vous l'avez reconnu, bien. Qu'est-ce que vous diriez par rapport... Ça représente bien Théodora. Mais qu'est-ce que vous diriez d'autre, là, par rapport à ce portrait ? C'est un portrait, ça représente Théodora.
Mosaïque.
C'est une mosaïque.
C'est une mosaïque.
Et à part toutes ces breloques qui nous montrent que c'est une impératrice, d'ailleurs c'est marqué, donc voilà. Pardon, il y a... Ben c'est ça. Il n'y a vraiment aucun trait réaliste. Vous avez là... Une femme, quoi.
Et encore, hein, si vous lui enlevez tout le bon truc, vous pourriez même penser que, enfin, vous hésiteriez sur le sexe, hein, voilà. Donc on a là quelque chose qui est absolument plus réaliste. On voit comment finalement cette histoire du portrait dans l'Antiquité et jusqu'à Théodora est une histoire de portrait qui finalement nous amène par plein de choses. On a vu comment au 5e siècle avant Jésus-Christ, on commençait à faire des portraits en mélangeant réalité et perfection, idéalisation. Chrysilas avec Périclès, Lysippe avec, avec Alexandre. Ensuite, on va petit à petit aller vers autre chose. Hein. Rappelez-vous la République romaine, où là, on va vraiment axer sur un réalisme outré, qui est dû au fait que, de toute façon, puisqu'on peut mouler les visages, ben, on les rend réels. Hein. Petit à petit, on revient vers une sorte de typologie idéalisée. Pensez à Auguste, hein, qui éventuellement va après s'inquiéter, pensez à Septime Sévère. Et puis après, à la fin de l'Antiquité romaine, on arrive à une sorte d'idéalisation totale, mais qui est encore plus, comment dire, décapante, hein, ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire qu'on a des figures dont on arrive à peine à dire le sexe, hein, qui sont finalement des visages, hein, dont on sait que ce sont des portraits, simplement parce que c'est marqué autrement, on l'ignorerait complètement. Hein. Et en fait, cette tendance-là, elle va durer pendant très longtemps. Hein. Là, on est au 6e siècle, hein, mais à vrai dire, tout le Moyen-Âge, du moins le début du Moyen-Âge, va être marqué par ça. Là, on est au début du Moyen-Âge, et bien très tardivement encore, hein, on va rester sur cette idée du portrait qui finalement n'a pas représenté les traits précis de quelqu'un. Il est complètement idéalisé, invariant, neutre. Alors c'est on appelle cet homme ou une femme.
C'est la fonction qu'on représente.
C'est ça, voilà. Plus la fonction que les traits eux-mêmes. Par parenthèse, tiens, et pour terminer, quel est, puisque avec Théodora nous entrons dans ce Moyen-Âge occidental où le portrait n'est un portrait que parce qu'on sait que c'en est un, parce qu'il représente une fonction et qu'on nous dit par une inscription qui ça représente, autrement on ne pourrait pas le savoir. Les traits du visage sont tous pareils. Il n'y a pas de variante. Hein. Quel est en France, finalement, le premier portrait d'un nouveau type, un vrai portrait, un portrait qui représente un personnage avec des traits singularisés. C'est quoi le premier portrait de la peinture française, finalement? Ce serait quoi? Pardon?
Charlemagne,
Charles VII. Qui dit mieux? Et moins bien.
Et les donateurs dans les triptyques.
Alors, c'est vrai que les donateurs dans les triptyques, on en a vu, hein, c'est des éléments importants. Donc, Charles VII, hein, je vous rappelle que c'est un roi, oui, du 15e. Hein, oui. Hein, vous rappelez le portrait de Clouet qu'on a vu. Donc, ce serait peut-être le premier portrait connu. Portrait au sens plein du mot portrait. Hein, c'est un portrait qui représente plus ou moins avec réalisme quelqu'un. Donc, première moitié 15e.
Oui.
Ouais. Vous parliez de Charlemagne. Oui, Charlemagne, en fait, on en a des représentations. J'aurais pu vous montrer la statue équestre de Charlemagne du Louvre, hein, la petite statue de la Bibliothèque nationale, pardon. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la statuette qui est à Paris, la Bibliothèque nationale, représente Charlemagne un peu comme les tétrarques. Hein. Oui. Un Charlemagne qui a un visage un peu passe-partout. Ce qui montre chez Charlemagne, c'est qu'on sait d'abord, c'est marqué, et puis qu'il est, il a sa couronne impériale, etc. Alors, quel est? Ce serait Charles VII, début 15e?
Avant.
Avant. Est-ce qu'on a avant le 15e des portraits quel serait le...
Dans les
tombeaux.
Dans les miniatures.
Dans les miniatures.
Jean de Lebon.
Et les ducs de Bourgogne, alors?
Duc de Bourgogne. Jean de Lebon et duc de Bourgogne, ça marche comment? Est-ce que vous parlez de Jean de Lebon et duc de Bourgogne? C'est vrai que les ducs de Bourgogne, par exemple, Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne, c'est quand, ça?
14e.
Fin 14e. Fin 14e. Ah, il meurt en 1404. Hein. Donc Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne, c'est fin 14e. Effectivement, hein. Vous connaissez à Champmolle le portrait de Klaus Schlüter qui montre. Donc effectivement, on est au 14e. Vous voyez que dès avant Charles VII, on a fin 14e, en Bourgogne, un portrait réaliste, un portrait digne de ce nom, de Philippe le Hardi, par Klaus Schlüter. Premier portrait en France? Pourquoi pas? Alors, on a parlé de Jean de Lebon, hein, c'est vous qui en parliez. Jean de Lebon, c'est qui par rapport à Philippe le Hardi? C'est... Allez-y. C'est le...
le père, c'est son père, c'est papa. Hein. Jean le Bon, c'est le père de Philippe le Hardi. Donc, effectivement, Jean le Bon, c'est le père de Philippe le Hardi. Enfin, vous me direz, ça pourrait être pas du cas, mais le portrait, s'il y a un portrait de Jean le Bon, il est forcément, enfin, il est vraisemblant avant Philippe le Hardi. Hein. Vous voyez quelque chose encore? Parce que là, et Jean le Bon, autrement dit, c'est quand à peu près? Quelle époque?
13e.
Pas tout à fait. Philippe le Hardi, c'est fin 14e. Hein.
Milieu 14e.
Oui, c'est milieu 14e, Jean de Le Bon. Hein. Donc, milieu 14e, ce serait le début du portrait en France. Du moins, connu, hein, parce que, comme pour l'Antiquité, il manque des tas de trucs. Hein. Bon. Oui. Pas d'enchères.
Agnès
Sorel, plus tardif. Charles VII. Eh bien, oui. C'est Jean de Le Bon. Jean, roi de France. Vous avez là le portrait de Jean de Le Bon, qui date du milieu du XIVe siècle, qui est considéré aujourd'hui comme le plus ancien portrait, du moins peint, mais portrait aussi, hein, en France. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu avant des portraits. Je pense par exemple à des portraits de Saint-Louis. Hein, mais qui sont des portraits complètement, si vous voulez, idéalisés et qui, où les traits du visage ne sont pas hyper, comment dire, pas forcément très proches de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans l'art du XIIIe siècle, hein, et c'est le cas des portraits de Saint-Louis que vous avez peut-être en tête, on est vraiment dans une idéalisation qui fait que, par exemple, le portrait de Saint-Louis ressemble assez aux angelots que vous voyez dans les portails des cathédrales. Vous mettez la tête de Saint-Louis, une tête d'angelot, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, jusqu'au XIIIe siècle, hein, de volonté de caractériser très clairement le portrait. Finalement, l'un des premiers portraits, en tout cas connus aujourd'hui, hein, en France, peint, c'est ça. Hein. Jean de Le Bon. C'est pour l'instant, hein, jusqu'à nouvelle découverte, hein, ce portrait qui est considéré comme le premier portrait de l'histoire de la peinture en France, comme le premier portrait, j'oserais dire, réaliste, si vous voulez. Hein, parce qu'on a là quand même un type avec... Il y a une volonté, hein, relative, hein, dans un portrait qui est un peu abîmé. Hein, c'est quand même un portrait du XIVe, il n'est pas indemne. Hein.
Et dans les autres pays européens proches de nous, il y en a, il y a l'équivalence
À la fois oui et non. Hein. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, c'est la date de sa naissance, de son accession au trône et de sa mort.
Voilà.
Est-ce que vous y voyez plus clair dans cette origine du portrait occidental? Oui. Un peu compliqué, hein, l'Antiquité, mais il y a besoin d'en parler. Hein.
Oui, parce que vous savez, mon rôle au père qui est complètement inventé.
Oui. Ouais. Et pourtant, c'est là que c'est amusant, hein. C'est qu'on voit que c'est un portrait, parce qu'il est dit que c'en est un. Hein. Sauf qu'il ne ressemble peut-être pas du tout à la réalité. Donc décidément, le portrait, c'est un genre très très ambigu. Il faut s'en méfier, parce que c'est pas ça. Un portrait d'Homère, quand un sculpteur dit « je fais le portrait d'Homère », bah, s'il le dit, on peut être d'accord avec lui, parce que c'est lui qui le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça ne ressemble pas à Homère. Il n'y a pas eu de portrait de... Alors, il y a eu des portraits rétrospectifs. Pardon ? Voilà, ben, sur le plateau d'Alésia, hein, il y a la grande sculpture de Millet le sculpteur. Parce qu'il y a aussi un sculpteur qui s'appelle Millet, qui est comme Jean-Baptiste, hein, ami de Zamus. Si. Alors le problème, c'est les pièces. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des pièces de Monet. Il avait raison d'ailleurs. Hein. La Monet a été un grand vecteur de. J'aurais dû en mettre une d'ailleurs. De circulation du portrait. Hein. Il y a eu des portraits de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, qui a présenté les effigies. Le problème est que quand Vercingétorix s'est fait portraiturer sur la Monet que vous disiez, il s'est fait représenter à la grecque. J'aurais dû vous le montrer, tiens, pour créer un peu plus de trouble dans vos esprits. Il y a une Monet qui figure Vercingétorix, hein, mais qui en fait est un Vercingétorix hellénisé, si vous voulez. Parce que Vercingétorix a copié les monnaies grecques. Pour nous simplifier la vie. Ah ben non, vous avez bien mal à la tête, que vous n'avez plus que l'envie, c'est de prendre un effet ralgon et de coucher, et ben je vous laisse.
Voilà. Merci beaucoup.
Et je vous retrouve la semaine prochaine.